France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une série d'émissions consacrées au métier d'écrivain. Nous étions en 1964 et Roger Vrigny demandait à Germaine Beaumont d'entrer dans ce jeu de confidence et d'introspection. « Je suis un animal littéraire », reconnaissait Germaine Beaumont, qui parlait de son amour de la littérature qui compte, de sa passion, commencée dès l'enfance pour les romans de Charles Dickens et de ses romans de mystère qui s'acheminaient vers le policier. Elle évoquait également ses billets dans la presse, les disques, sa rencontre avec l'Angleterre, fruit de sa paresse et de son opiniâtreté, disait-elle, de son goût pour les maisons, pour l'atmosphère des maisons, pour la traduction, une discipline, pour le journal de Virginia Woolf, pour l'emploi de la litote et non pas celui de l'emphase. Le métier d'écrivain, Germaine Beaumont, voici les trois premiers entretiens de cette série, diffusés pour la première fois sur France Culture les 27, 28 et 29 janvier 1964.
Le métier d'écrivain. Propos de Germaine Beaumont, recueilli par Roger Vrigny.
Germaine Beaumont, il n'y a que des rencontres. Et les plus réussies sont souvent les moins prévues. Je crois que vous ne me contredirez pas, car votre destinée littéraire a été marquée, elle, tout au long des années, par des surprises. Des surprises qui sont devenues des habitudes, de bonnes habitudes. Vous êtes romancière, poète, critique, essayiste, traductrice. Vous avez pratiqué, au fond, tous les genres, toutes les activités du métier littéraire. Avec succès, avec brio, vous avez reçu les lauriers d'un grand prix, vous avez assuré la direction d'une page littéraire dans un grand quotidien, vous avez multiplié les poèmes en prose, les contes dans des revues, dans de grands hebdomadaires, vous avez traduit aussi bien Virginia Woolf que Truman Capote. Bref, vous êtes ce qu'il est convenu d'appeler une personnalité littéraire. Cette longue pratique, heureusement, n'a jamais fait de vous une fonctionnaire des lettres, car vous incarnez un certain type d'écrivain que l'on rencontre malheureusement de moins en moins dans la vie littéraire, le moins traditionnel qui soit. C'est-à-dire une femme de lettres et une femme naturelle. C'est naturellement que vous êtes devenu écrivain et c'est naturellement aussi que vous avez su rester vous-même. Alors je voudrais que nos entretiens que nous allons commencer ce soir et qui vont se dérouler chaque soir à la même heure tout au long de la semaine, je voudrais que nos entretiens soient, eux aussi, le moins traditionnels possible. Qu'ils poursuivent seulement, sur le ton de la conversation, cette rêverie intérieure ou cette réflexion, comme vous le voudrez, qui a été la vôtre tout au long de votre vie, réflexion sur le métier de l'écrivain. Et d'abord, Germaine Beaumont, quelle impression a été la vôtre quand, pour la première fois, on vous a demandé d'évoquer vos souvenirs littéraires?
Une impression de recul, parce que, en principe, je n'avais jamais songé à confier quoi que ce soit concernant ma vie littéraire, en somme, si vous voulez, ma vie personnelle.
Oui, parce que la vie littéraire, pour vous, c'est votre vie personnelle.
C'est ma vie personnelle. Je ne peux pas faire de différence. Je ne me souviens pas d'avoir appris à lire, alors je suppose que je suis née sachant lire. Je n'ai jamais appris à écrire, donc je suis née sachant écrire. Je n'ai jamais fait une faute d'orthographe, donc je suis un animal littéraire. Lorsqu'on s'incorpore à ce degré, à ce qu'on aime le mieux, on finit par vivre presque animalement parce qu'on vit instinctivement.
Mais vous vous sentiez différente des autres,
tout de même. Ah, toujours. Oh, ça, toujours. Toujours parce que j'ai toujours devancé soit les enfants avec lesquels j'étais élevée, soit les grandes personnes avec lesquelles je me trouvais et qui n'avaient pas mes idées. Alors, j'avais donc l'impression d'être à part, et vous savez, quand on se croit à part, on se croit toujours au-dessus. Il faut beaucoup de philosophie, avoir beaucoup de vécu pour se rendre compte que l'on peut être autre sans être au-dessus. Ben, j'ai au moins acquis la modestie.
Mais pour vous, il n'y avait pas de question de vocation, alors. C'était automatique.
Non. Oh, j'ai jamais eu de vocation.
Et quand vous avez écrit la première fois?
Je pense que ma première composition française, c'est ça, là, n'est-ce pas, la première fois. Eh bien, je ne me souviens pas de quoi il s'agissait, très exactement d'un commentaire sur une fable de La Fontaine, probablement. Et j'avais terminé cette narration par une phrase qui a perturbé ma famille. Mais n'anticipons pas sur les événements. Étant donné l'âge tendre que j'avais, vous comprenez, évidemment...
C'était inquiétant.
Ah oui, très, très inquiétant.
Et alors, vous avez continué à écrire?
À ce moment-là, j'ai commencé à séparer mes devoirs de mes idées à moi. La première fois où j'avais cru comprendre que l'on pouvait assimiler ses idées personnelles à un devoir, par exemple, je me suis aperçue que je commettais une très lourde erreur. C'était au sujet encore d'une composition française dans laquelle on me demandait de décrire une belle journée d'automne. Je bouillonnais tellement d'idées sur ce que devait être une belle journée d'automne que j'ai jamais pu faire la composition.
Qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai remis une feuille blanche. La belle journée d'automne me demandait une bibliothèque entière, alors j'étais au plus simple.
Oui, au fond, vous vouliez faire quelque chose qui correspondait à votre émotion, à vos sentiments, et à ce moment-là, vous n'aviez pas le moyen de l'exprimer.
Non, comme je ne l'avais pas, j'avais besoin de beaucoup de mots. Parce qu'on finit par être un écrivain, quand on connaît beaucoup de mots, mais quand on en connaît beaucoup moins.
Quand on sait les reconnaître.
Quand on sait les reconnaître.
Et ce n'était pas ce que vous demandez vos professeurs, au fond. Vos professeurs vous demandaient de vous servir des mots usuels.
Vous savez, mes professeurs, je crois, me considéraient comme une petite fille pareille aux autres. Ils ne voyaient pas du tout ce qui me posait à moi des problèmes, parce que mes camarades n'en avaient aucun. Elles avaient de bonnes notes, moi, rarement.
Et vos problèmes, c'était donc déjà des problèmes d'ordre littéraire, alors? Vous en êtes
je ne savais pas, je ne savais pas que c'était d'ordre littéraire. À dire vrai, je ne savais pas ce que c'était. J'avais besoin de dire beaucoup, beaucoup de choses. J'écrivais beaucoup de choses. Je ne dirais pas que je tenais mon journal, parce que j'ai retrouvé à la mort de mon père, et je ne sais pas ce que c'est devenu malheureusement, des cahiers d'enfants que j'avais. Je les tenais toujours pendant les vacances. Les êtres humains ne m'intéressaient pas du tout. Mais pas du tout.
Pourquoi?
Eh bien, parce qu'il m'intéressait.
Comme ça.
C'était comme ça.
C'était la nature.
C'était la nature. Rien que la nature. Parce que dans ces carnets, les grandes personnes n'intervenaient pas. Il y avait quelquefois il ou elle. Ou mon frère, n'est-ce pas, que j'aimais beaucoup. Alors là, je donnais son prénom, c'est Pierre.
Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé? C'est-à-dire, est-ce que vous vous intéressez aux êtres?
Oui, s'ils coïncident avec des paysages ou avec des choses que j'aime. Je les vois dans un cadre, mais pas très souvent dans un cadre intérieur, dans un bureau ou dans une chose comme ça.
Et vous avez besoin qu'ils soient entourés d'un cadre naturel?
Oui, je les vois mieux. Ils sont cernés par quelque chose qui est plus grand qu'eux, en quelque sorte, et qui, moi, me permet de communiquer avec eux au-delà même de ce qu'ils sont.
Ce qui vous a toujours attiré, alors, dès votre enfance, c'est la nature. Vous avez toujours vécu dans la nature?
Toujours. J'ai eu la chance de naître dans une maison de campagne qui appartenait à ma grand-tante. en Normandie, au bord de la Seine. Il ne reste exactement rien de la maison, rien du jardin. Ce charmant village est devenu un port industriel. Ces souvenirs sont restés tellement proches et tellement vivants qu'on me dirait maintenant ce jardin n'existe pas, que je me mettrais à rire car il existe. Il est là. Rien n'est effacé. Pas un brin d'herbe.
Mais dans le milieu dans lequel vous viviez, vous aviez tout de même connaissance de la littérature.
Oui, je vivais dans un milieu très cultivé.
Alors, mais vos parents recevaient des artistes?
Mes parents étaient divorcés, mon père s'était remarié. Si mes parents n'avaient pas divorcé, il est certain que j'aurais déjà rencontré chez eux un milieu que j'ai retrouvé plus tard, alors chez ma mère, qui, elle, venant à Paris, s'est trouvée tout de suite dans un milieu littéraire.
Mais vous êtes aperçu qu'il y avait d'autres gens comme vous qui écrivaient aussi?
Eh bien, je crois que c'est assez tard, ça. Assez tard et pas en France, parce que j'ai longtemps vécu en Angleterre. Je voyais des écrivains, mais je ne voyais pas par quel point je touchais à eux. C'est-à-dire que très souvent, on se choisit des maîtres. Chose curieuse, les gens importants qui auraient pu être des maîtres pour moi, je les ai connus à un moment où ils n'étaient pas encore ce qu'ils sont devenus. Je vais anticiper sur les événements. En vous disant, par exemple, qu'Henri Barbusse était un très grand ami de ma mère, mais je l'ai connu bien avant qu'il écrivit Le Feu. Il était poète et il avait écrit un recueil de poèmes qui s'appelait Les Pleureuses. Il était encore très imprégné de symbolisme. Mais alors là, dans mon amour des symbolistes qui persévèrent, parce que ça, je les admire, je les admirerai toujours, notamment sa main injustement décriée, il avait déjà peut-être glissé vers quelque chose de plus vague, de plus suave.
De plus vaporeux.
Oui. Et c'était assez curieux parce que ça, j'ai gardé très précieusement l'exemplaire des Pleureuses, n'est-ce pas? Parce que j'avais dit à ma mère, oh, si seulement M. Barbusse pouvait me donner un exemplaire de ses poèmes, comme je serais contente. Alors, ma mère dit, écoute, c'est la chose la plus simple, tu n'as qu'à le lui demander, ce que je fis. Et j'ai l'exemplaire des Pleureuses avec la dédicace de Barbusse, qui est celle-ci. Il me donnait le nom de ma mère, qui avait repris son nom de jeune fille, à Germaine de Peine, petite dame encore à l'aube.
Vous avez toujours été attirée par la poésie?
Oh, toujours. Toujours. Oh, je crois que à 5 ans, j'écrivais des poèmes démesurés.
Démesurés dans quel sens?
Oh, la longueur.
La longueur,
l'ambition, les thèmes. Oh, oui. J'avais lu Musset, pas à 5 ans, non. Mais enfin, on en parlait autour de moi. Alors, je croyais que la poésie était strictement descriptive. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas mal.
Mais vous avez continué à écrire des vers?
Oh, oui.
Oui, mais à cette période de votre jeunesse, moment d'Henri Barbusse.
Non, pas du tout. Je les écrivais pour moi et je me rendais compte que je tombais alors dans une imitation assez pâle des symbolistes. Ça, je me suis rendu compte que c'était mauvais.
À quel moment vous avez senti dans quelle direction vous deviez vous diriger pour vous exprimer?
Assez tard, je crois. Peut-être même parce que j'étais très imprégnée de littérature, très imprégnée de poésie, que je lisais énormément, d'abord en français, puis en anglais. J'étais tellement saturée de tout cela que je crois que je ne me voyais plus très bien moi-même. J'ai écrit, en somme, mon premier roman assez tard.
Quel a été votre premier roman?
Enfin, le premier roman qui a été édité, parce que, naturellement...
Vous en aviez écrit d'autres avant, dans vos tiroirs?
Oh, non! Non, dans des revues, dans des journaux féminins, dans des choses comme des journaux d'enfants aussi. J'écrivais d'énormes romans pour les enfants, des romans d'aventure. Mais ça, je m'amusais, n'est-ce pas? Je ne considérais pas que c'était une œuvre littéraire.
Avec votre premier roman que vous avez senti quelle était votre manière?
J'ai senti à ce moment-là que je pouvais trouver une manière de m'exprimer.
Au fur et à mesure que vous écriviez, que vous progressiez en vous-même,
oui. Vous
avez rencontré autour de vous des êtres qui comprenaient ce que vous faisiez. Et c'était ça votre progrès, au fond.
C'était cela.
Bon, plus on a de gens qui vous comprennent, mieux on se comprend.
Oui, Oui. Mais je recevais des lettres pour les premiers poèmes, les premiers livres que j'écris. Vous ne pouvez pas savoir comme j'étais encouragée, même par des inconnus, mais pour qui je représentais quelque chose. Par exemple, pendant ma longue collaboration aux Nouvelles littéraires, quand j'ai donné d'abord des poèmes en prose et ensuite, depuis la guerre jusqu'à il y a 2 ans, toutes les semaines, un véritable poème, je ne peux pas dire que j'ai reçu ni une consécration ni des louanges des autres poètes, mais d'une foule, je dis bien d'une foule innombrable de personnes inconnues, comme les figures qu'on voit en songe, vous savez, qui se pressent, et de gens qui me portaient littéralement.
Et comment réagissaient-ils ?
Beaucoup de personnes qui ne sont pas douées d'un moyen d'expression trouvent leur expression dans quelqu'un d'autre. Ainsi, je recevais beaucoup de lettres, par exemple, dont le thème était celui-ci, « Comme vous savez bien dire ce que je sens, comme je retrouve en vous des choses que je n'ai pas su dire, comme vous sentez des choses que je n'aurais jamais osé exprimer. » Cela me portait, vous comprenez, j'étais l'expression d'une foule.
Les billets des poèmes en prose que vous publiez aux Nouvelles littéraires s'appelaient disques.
Disques.
Et je me souviens personnellement d'en avoir lu des disques, j'étais peut-être parmi cette foule anonyme à ce moment-là.
Eh bien, vous ne m'avez pas écrit. Vous n'en savez rien.
Vous n'en savez rien.
J'avais choisi le mot disque parce que quand j'écrivais ces petits billets, j'avais l'impression d'une petite musique que je faisais tourner pour moi-même.
C'était votre musique intérieure.
C'était une petite musique courte et qui illustrait des moments qui étaient véritablement des moments musicaux. Parce que je voyais toujours un aspect beaucoup plus musical et poétique de la vie qu'un aspect réel.
Est-ce que vous aimeriez en lire un disque ?
Puisque nous avons parlé de mon enfance, alors je pense que peut-être je pourrais faire allusion à une femme que j'ai beaucoup aimée dans mon enfance et qui s'appelait Zénaïde Fleuriot. Le centenaire de Zénaïde Fleuriot est passé presque inaperçu, et c'est dommage, car elle est à peu près la seule femme qui, écrivant pour les enfants, ait été dénuée de sadisme. C'est bien la vérité que dans tout éducateur dort au cœur du plus épais cocon un ver torsionnaire, instruire est le plus grave refoulement. L'estrade qui exauce vers le tableau noir l'écolier hagard demeure le premier degré du pilori et les examens se succèdent comme des exécutions en masse. Voilà pour l'instruction ce magnifique fléau de Dieu. Mais quand il s'agit de l'éducation, de l'exemple moral proposé par une dame excellente et qui ne veut autour d'elle que des enfants parfaits, quelle effrayante galerie de supplices chinois. Les âmes les plus douces ont été capables, dans cet ordre, des plus subtiles horreurs. Toute une littérature romanesque, enfantine, bénie par les évêques, approuvée par les mères, reliée de roses, poudrée de neige et d'or, a prévu pour l'enfance désobéissante, têtue, opiniâtre, coquette, gourmande, étourdie ou menteuse, des punitions atroces. Les désobéissants, ils ont entre 5 et 12 ans, se noient ou s'empalent. Les coquettes ont la petite vérole, les gourmandes s'empoisonnent, les menteuses sont foudroyées. Cela ne va pas sans quelques raffinements. Marceline Desbordes-Valmore aimait ses enfants et l'amour. Pourtant, elle a écrit sur un petit garçon passage des pages de la plus froide cruauté. Madame de Pressensé, ce velours de soie, se pourléchait devant le bas âge orphelin. Quant à la comtesse de Ségur, celle-là, non seulement refoulée mais piaffante, elle avance vers la postérité, escortée des hurlements de Torchonnet, des clameurs de Sophie et du grand cri que jette éternellement la Papovska fouettée par l'Ispravnik. L'enfant sage avait-elle plus de chance devant ce tribunal ? Dieu non. Que vouliez-vous que fit alors un enfant sage ? Qu'il mourût. Au lieu de mourir étripé, laminé, défiguré, bouilli, il mourait dans son lit, voilà tout. Il mourait au milieu de ses petits amis, une bonne mort doit faire des ronds dans l'eau, entre sa mère toute rengorgée de rendre au ciel un élu et son père déférent. Zénaïde n'a rien fait de tout cela. Ses petites filles ne tombent pas dans les puits, ne mangent pas d'agaric, n'attrapent pas la peste et survivent même à la terrible épreuve de n'avoir rien à se reprocher. une rose pour le tombeau de Zénaïde, mais les pétales seulement, pas les épines.
C'était Le métier d'écrivain, propos de Germaine Beaumont, recueilli par Roger Vrigny. Assistante de réalisation, Michel Thierry. Le métier d'écrivain. Propos de Germaine Beaumont, recueilli par Roger Vrigny.
Germaine Beaumont, vous nous avez dit que, pour vous, les années n'avaient pas toutes la même importance, que les souvenirs s'ordonnaient dans la mémoire d'une façon plus sensible, oui. Disons que chronologique. Oh, j'aimerais oui. Tout de même que l'on mît un peu d'ordre dans tout cela.
Oh, mon Dieu, l'ordre.
Et après cette évocation des premières années de votre jeunesse, la rencontre, non pas la rencontre d'une personne, ni même d'un paysage, mais la rencontre, je crois, d'un pays qui a beaucoup compté dans votre existence. C'est la rencontre de l'Angleterre.
Ah oui.
Oui, alors cette rencontre de l'Angleterre, vous l'avez faite à la fin de vos études.
Eh bien, elle a été surtout le fruit de ma paresse et de mon opiniâtreté, parce que mon père m'avait changé de lycée et je ne me plaisais pas. Vous voyez, je ne dis pas de non, je suis gentille. Mon père m'avait placé dans
vous dites
un lycée.
Ça comme si c'était une défense, hein, quand vous dites non, je suis gentille.
Oui, je suis gentille parce que, certes, je me suis beaucoup plu au lycée de Versailles, mais je l'ai quitté pour un lycée à Paris où je ne me suis pas plu du tout, où je m'y suis tellement déplu, même que j'ai cessé de travailler, ce qui a consterné ma famille parce qu'elle espérait tout de même que je ferais des études brillantes. Et j'ai cessé de travailler. Je n'ai plus rien voulu faire.
Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait alors ?
Eh bien, mon père m'a dit, puisque tu ne peux plus rien apprendre en France, bah, essayer d'apprendre quelque chose à l'étranger. Et il m'a envoyé en Angleterre, je ne dirais pas comme punition, si vous voulez, mais pour me montrer que tout de même, la vie en France, les études françaises avaient du bon, et que quand on ne voulait pas se plier à une règle, eh bien, on risquait...
De tomber sous une autre qui n'était pas plus plaisante.
Voilà. Et je suis donc partie pour l'Angleterre, mais je n'avais pas touché le sol de ce pays béni que je me suis sentie prendre racine. Alors c'est terrible, vous comprenez, quand on vous envoie en exil, de vous enraciner à la minute où vous touchez le sol, parce qu'alors là, ça renverse tout. Et j'ai eu un mal affreux à revenir en France.
Vous êtes restée combien de temps ?
10 ans. J'étais partie pour 2 mois. J'écrivais à mes parents, enfin, surtout à mon père, des lettres qui étaient tellement délirantes de joie, de découverte et de choses comme ça, que vraiment, il n'a pas eu le courage de me faire revenir. Il s'est dit qu'après tout, mon séjour en Angleterre eh bien, pouvait être fructueux à un autre point de vue, que je pourrais peut-être m'orienter vers d'autres connaissances. Il n'avait pas des idées très précises sur ce que
mais alors, votre
faire.
Amour de la littérature trouvait aussi son content dans cet
amour
de l'Angleterre.
Oui, mais oui, parce que j'avais déjà commencé à lire beaucoup d'auteurs anglais pour lesquels j'avais énormément de goût dans
lesquels,
les traductions.
Lesquels?
Oh, Dickens. Et, chose curieuse qui préfigurait mon destin, beaucoup des grands romans du 19e siècle anglais, qui étaient presque tous, non pas ce qu'on appelle maintenant des romans policiers, mais des romans de mystère s'acheminant vers le policier. De sorte que j'étais déjà très préparée. Je savais déjà des tas de choses dans cet ordre d'idées. Et j'avais tous été traduits dans les petites collections vertes et oranges de Calman Levy, et je les avais à peu près tous lus. Mais en français, quand je suis arrivée en Angleterre, et qu'à mesure que je parlais mieux l'anglais, que je suis arrivée à ce moment-là à parler très très bien, je les retrouvais alors dans leur texte original, de sorte que je les ai lus deux fois, en français, en anglais, et alors avec un enchantement incroyable.
Mais vous ne les avez pas lus trois fois non plus. Je veux dire, est-ce que l'ambiance que vous avez trouvée en Angleterre n'était pas un reflet de l'atmosphère que vous aimiez dans ces livres? Est-ce que ce n'est pas ça un peu qui vous a touché?
Peut-être, parce que l'Angleterre à ce moment-là était encore très conservée, très victorienne. Malgré tous les grands auteurs édouardiens, naturellement, que je lisais aussi, et même quelquefois j'étonne beaucoup d'anglais en leur parlant de romans édouardiens dont eux-mêmes n'ont jamais entendu parler, et moi je les avais lus. L'atmosphère des maisons, la vie intérieure était encore très marquée par la reine Victoria. Il y avait encore ce côté assez capitonné, assez régulier, assez poétique d'ailleurs.
Oui, mais ce qui vous plaisait, c'était la poésie, parce que quand on vous connaît, oui, on vous voit mal vous accommoder d'un ordre social victorien.
Et c'était un cadre, c'était un décor. L'ordre social, eh bien, mon Dieu, il avait déjà subi des coups de boutoir formidables.
Vous avez retrouvé ces romans, vous les avez lus dans le texte, et vous avez voulu les traduire.
Pas tous. Ce sont des romans dont la moyenne de pages est de 350, 400, 500 ou 600 pages. Alors, vous savez, ça arrête le néophyte. Non, j'étais au contraire très intéressée par des choses peu connues, ravissantes, beaucoup plus modernes d'ailleurs, qui étaient les contes d'Oscar Wilde et surtout les essais de Max Beerbohm.
Et vous les avez traduits pour votre compte personnel?
Pour moi, pour mon compte personnel. Il n'y a pas tellement longtemps, je retrouvais un cahier où j'avais traduit Le Prince Heureux, et c'est encore une écriture que j'avais à ce moment-là, très fine, couchée, très... pas du tout mon écriture de maintenant, mais enfin, je n'avais pas encore les mains paralysées d'impatience. Vous rendez-vous compte quand on ne peut pas écrire parce qu'on veut écrire vite, ben, c'est la paralysie de l'impatience, non?
Oui. Et pourquoi écrire vite?
Parce que les idées, quelquefois, bousculent les mots. Et qu'on ne veut pas perdre une idée.
Ne trouve pas toujours le mot.
Et on ne trouve pas toujours le mot. C'est terrible.
Oui, mais c'est parce qu'on est plus exigeant sur le mot aussi.
Ben voilà.
Alors qu'à l'époque, on trouve le mot, ou tout au moins le mot vous satisfait.
Non, la première chose que j'ai sévèrement éliminée, c'est l'adjectif. C'est incroyable ce qu'on accumule d'adjectifs quand on est jeune. J'étais un véritable dictionnaire d'adjectifs, et tous ravissants. Une horreur, quoi. Tout ce qui alourdit le style, tout ce qui l'abîme, n'est-ce pas, tout ce qui l'enjolive.
Mais alors, pour vous, la traduction était une école littéraire?
Une discipline.
Une discipline.
Ah oui, une discipline, parce que...
Et vous l'avez choisi dans ce but, ou vous l'avez choisi simplement?
Je n'ai rien choisi dans un but quelconque. J'avais envie de le faire, ça m'intéressait, ça m'apprenait quelque chose.
Vous le faisiez tout de même comme un écrivain? Vous ne le faisiez pas comme un traducteur. Alors vous me direz, un traducteur, c'est un écrivain. Mais enfin, tout de même, c'était parce que ça correspondait à votre nature d'écrivain.
Parce que ça me perfectionnait dans deux langues. Les similitudes sont assez rares, au fond, sont les équivalences qui comptent. Quand on entre dans le chapitre des équivalences, on entre dans une forêt admirable. C'est pas la forêt des équivalences, c'est splendide. C'est
oui, parce que vous vous enrichissez mutuellement.
Mutuellement,
au contact de l'auteur à traduire,
oui,
et de vous-même que
oui, oui.
Vous êtes obligé de découvrir pour le découvrir.
Autrement, j'ai abordé très tard, en quelque sorte, la traduction. Mais j'ai pu aborder la grande traduction tout de suite parce que j'étais absolument préparée. Le journal de Virginia Woolf, qui a été ma première vraie grande traduction, est une chose qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de soins, mais certainement beaucoup moins de temps et de soins que si, par exemple, je n'avais pas lu beaucoup de livres anglais et si je n'avais pas vécu par un concours de circonstances très extraordinaire partout où Virginia Woolf avait vécu.
Vous voyez un signe du destin ?
Une sorte d'éblouissement, parce que le journal d'un écrivain de Virginia Woolf ne me préparait pas à cette sorte d'itinéraire. Mais quand je voyais des noms qui ont été les jalons de ma vie en Angleterre, jusque y compris des adresses à Londres, alors là, tout ce qu'elle écrivait, vous comprenez, prenait un sens et s'éclairait d'une manière telle que quand elle disait « je remontais telle rue, le ciel, les maisons, les toits étaient ainsi », j'avais vu ce ciel, ces toits, ces maisons éclairées de la même façon. Ce qui me permettait de toucher son fantôme, de la voir en transparence, mais de la voir réellement.
Mais une traduction pour vous est une rencontre avec un écrivain. Est-ce que ces rencontres aussi que vous avez eues ont eu une influence littéraire sur vos idées d'écrivain?
Non, le journal d'un écrivain de Virginia Woolf n'a fait qu'illustrer des émotions, des doutes, des inquiétudes qui sont, je crois, le propre de tout véritable écrivain qui est toujours en retard sur son inspiration, qui conçoit un livre et qui essaie de le rattraper, de le ressaisir, n'est-ce pas ? C'est un ballon qui vous échappe. Et elle l'avait, elle, à un degré extraordinaire qui allait jusqu'à la souffrance. Elle a été un être martyrisé parce qu'elle ne pouvait jamais arriver à cerner les bulles de savon. N'est-ce pas ? C'était des bulles de savon et elle essayait de les saisir et vous savez ce que fait une bulle de savon ? Elle était environnée d'une diaprure de diamants, mais elle cherchait toujours, toujours, toujours à saisir l'irisation, la forme et tout ce qui est dans une bulle de savon, dont nous ne voyons que l'extérieur, elle voyait l'intérieur.
Au fond, elle vous a rendu le service de vous faire prendre conscience de...
Oui, d'une difficulté...
L'impossibilité... d'écrire, mais de réaliser complètement ce que l'on veut dire.
Elle m'a montré combien de fois, sans le vouloir, j'avais triché. Et j'avais triché sans que ce fût perceptible pour quiconque, même pas pour moi par moment, parce que sans le vouloir, je choisissais le moyen d'expression le plus direct et le plus facile.
Oui.
On veut décrire une chose, on a des mots, on a des situations et on a des personnages. Alors ça va, on croit qu'on a fait quelque chose. Virginia Woolf m'a appris qu'il fallait passer à travers le personnage, à travers la situation, à travers le décor et atteindre autre chose derrière.
Et c'est ce quelque chose qu'il est très difficile d'atteindre et quand on l'a atteint, qui disparaît.
Pour elle, ça n'a pas disparu parce qu'elle a obligé beaucoup de gens à se pencher sur des difficultés inouïes et non pas sur le tranquille miroir qui est un roman bien fait.
Mais alors vous vous posiez des questions sur le travail même de l'écrivain.
Ah oui.
Mais c'est ce qui vous paraît
beaucoup,
plus important.
Ah oui. Et je dois dire, elle m'a appris une telle humilité que j'ai beaucoup plus de mal à écrire maintenant qu'autrefois. Je ne suis plus contente de rien.
Mais parce que justement, vous nous avez dit « je suis un animal littéraire ».
Mais oui, mais
Or,
oui.
le propre de l'animal, enfin, pris
oui,
au sens
instinctif.
De la comparaison, c'est d'être instinctif, de ne pas s'interroger, de ne pas avoir de conscience de ce qu'il fait.
Oui. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi la foi du charbonnier. Les gens qui croient parce que c'est quoi,
mais alors là,
c'est
vous, êtes devenu un animal littéraire malheureux.
Exactement, enfin... Martyrisé, malheureux et faible.
Mais comment s'en sortir alors ?
Ben, je ne m'en sors pas. Je ne peux pas m'en sortir, puisque j'ai conscience d'une difficulté insurmontable. Mais c'est déjà très beau d'avoir le sentiment de la difficulté insurmontable, parce que, pour vous dire la vérité, je suis entourée de tant de gens qui sont contents d'eux-mêmes qu'ils finissent par me fatiguer horriblement, et ça me repose énormément d'être mécontente de moi-même.
C'était Le métier d'écrivain. Propos de Germaine Beaumont, recueillis par Roger Vrigny. Assistante de réalisation, Michel Thierry. Le métier d'écrivain. Propos de Germaine Beaumont, recueilli par Roger Vrigny.
Germaine Beaumont, dans le monde littéraire, où vous avez toujours vécu, mais plus particulièrement à propos de la production romanesque, vous avez toujours senti cette différence essentielle entre ce qui est fabriqué et ce qui est réel.
Oui, je crois que je l'ai appris très tôt, et cela à la faveur des études, parce que, qu'on soit bon élève ou mauvais élève, doué pour la littérature ou pas, il y a tout de même un champ de comparaison qui s'établit presque immédiatement. Quand on vous donne, par exemple, une narration, ce qu'on appelait à ce moment-là une composition française, ce qui élevait énormément le sujet, je dois dire, on était obligé d'appliquer ce que l'on vous demandait. Et partant sur ces données, je m'apercevais, en essayant de décrire précisément ce que je connaissais le mieux, que j'écrivais d'épouvantables platitudes, parce que j'avais beau avoir déjà trop lu, mais je n'avais pas lu avec le discernement, la patience et le sentiment d'observation qui constitue après la véritable lecture. Je voyais très clairement la différence déjà qui existe entre la chose que l'on écrit et la chose que l'on a vue, et que par conséquent, entre ces deux points de vue si différents, résidait, je l'ai perçu à ce moment-là, tout l'art d'écrire.
Vous insistez ici sur la première tâche à faire pour celui qui veut devenir écrivain, et vous nous dites, c'est d'apprendre à savoir d'écrire. C'est déjà le béaba, je dirais,
oui,
de l'écrivain.
Oui, évidemment, parce que de cette question que l'on vous pose naît l'espèce de confrontation entre soi-même et un univers même restreint qui sera plus tard la vie, le domaine et le métier de l'écrivain.
Mais alors précisément, ici vous retrouvez ces conseils que donnait Flaubert à son élève ou à son disciple Maupassant qui s'interrogeait justement sur l'art d'écrire et qui s'imaginait que tout ayant déjà été parfaitement décrit, il ne voyait pas très bien ce qu'il avait à faire. Et Flaubert lui disant, eh bien, mets-toi devant un arbre et regarde-le. Et à partir de ce moment-là, tu seras le premier, l'ayant regardé, à savoir le décrire comme personne avant toi ne l'a décrit. Il faut donc que mots qui décrivent le monde extérieur deviennent les mots de votre monde intérieur avant de vous en servir.
C'est très exact. Et il y a en outre une expérience que j'ai faite à ce moment-là, je crois que je l'ai déjà effleurée, ne pouvant pas saisir très exactement l'essence même de ce que je voulais décrire, écrire, puisque à ce moment-là c'était la même chose, je croyais trouver une possibilité de le faire en multipliant les adjectifs, le facile. Il me semblait qu'en mettant beaucoup de mots Et alors, à ce moment-là, j'appelais à mon secours. Je vous dis toutes sortes de choses que j'avais pu lire.
Oui, au fond, c'est par l'accumulation de termes...
Par accumulation, oui.
...que l'on essayait de donner de l'intensité aux mots.
Exactement. Plus tard, quand j'ai appris la sténographie, et Dieu sait pourquoi, parce que je n'en ai jamais rien fait. Si, je sais pourquoi je n'en ai rien fait. Je sais aussi pourquoi, au fond, je l'ai apprise. Mais en apprenant la sténographie, il y a cette chose bien connue de tous les gens qui ont pratiqué cet art... c'est qu'on vous apprend des quantités de signes et que l'art consiste à les éliminer. Mais vous ne pouvez les éliminer que parce que vous les connaissez. C'est ça qui m'avait paru d'ailleurs prodigieusement intéressant dans la sténographie. C'était ce procédé à rebours qui partait du plus vaste pour arriver au plus petit.
Oui, mais alors vous seriez tout de même partisante, Germaine Beaumont, du style... classique, c'est-à-dire d'un style qui utilise plutôt la litote que l'emphase.
Oui, oh, ça seulement, on ne l'apprend qu'en se relisant et qu'avec un peu d'expérience. On ne peut pas faire tout de suite cette expérience. On croit que quand on montre le plus de choses possible, on se place sur un plan supérieur. C'est en disant le moins de choses possible qu'on se place sur le véritable plan. Parce que là, quelque chose de soi passe par-delà les mots et crée l'écrivain. C'est en soi qu'est l'écrivain, ce n'est pas tellement dans les mots.
Mais c'est là où nous touchons justement au mystère. C'est de l'alchimie qui se passe à ce moment-là.
Ah, c'est très curieux.
Exactement, c'est une transmutation.
Et elle est très curieuse. Il m'arrive quelquefois de m'interroger sur les chemins parcourus. Il y a véritablement des chemins parcourus. Pour devenir un écrivain, c'est une chose qui m'est arrivée sans que je l'ai voulu. Mais pour arriver à cette chose-là, il fallait tout de même que je passe par des chemins très compliqués, très longs, très difficiles, et par des comparaisons, et par des lectures, et par des tas de choses. Mais j'ai eu beaucoup de mal à éliminer. C'est la chose la plus difficile.
Vous étiez tout de même amenée, par ce travail même que vous venez de nous décrire, à... analyser votre monde intérieur.
Ah, forcément.
Mais alors, êtes-vous passé dans vos romans successivement d'une description à une autre, si vous voulez, d'un problème de conscience, au contraire, la description ou une belle histoire à raconter, ou est-ce que vous avez imbriqué les deux thèmes ?
Je ne crois pas que je sois jamais partie de l'idée d'une belle histoire à raconter, ni même d'une histoire, mais d'une série d'états d'âme inscrits dans une série de paysages, car je n'ai jamais pu séparer complètement, et c'est peut-être ma faiblesse, peut-être ma plus grande qualité, ça je ne peux pas en juger, je n'ai jamais pu me séparer de la nature à aucun moment. Je passe par un spectacle de la nature pour me retrouver moi-même. J'ai toujours pensé que le plus beau mythe de l'Antiquité, c'était le mythe de Daphné. N'est-ce pas? Car en réalité, moi, vous savez, tous les dieux de la création auraient pu me courir après. C'est pas ça qui m'aurait fait devenir un laurier. C'est l'amour du laurier. Mais enfin, quand je dis laurier, naturellement, je ne pense pas aux récompenses.
Vous avez beau nous parler de la nature, Germaine Beaumont, il y a cependant un thème qui vous est bien personnel, qui concerne bien le monde intérieur, c'est celui de la solitude.
La solitude, pour moi, représente quelque chose d'essentiel. D'abord parce que tous les êtres sont seuls. Mais on ne voit pas d'abord à quel point ils sont seuls. C'est eux-mêmes qui constatent à quel point ils sont seuls par confrontation, parce que vous pouvez raconter quelque chose à l'être que vous aimez le plus, vous lui racontez les choses qui vous sont à vous les plus vraies, les plus douloureuses, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un qui vous regarde avec un bon sourire vermeil, qui dit « Ah oui, ah, vous avez besoin de partir en vacances » ou quelque chose comme ça. Alors c'est affreux, ça c'est la solitude absolue. Mais ce thème de la solitude que j'ai expérimenté 1000 fois, pour moi, ça m'a intéressée de le chercher dans des êtres, non pas absolument imaginaires, mais ils l'étaient parce que je les créais, si vous voulez, mais c'était des êtres qui étaient bien réels puisqu'ils souffraient de leur solitude. Donc, c'était moi qui me projetais dans la solitude d'autrui. Et c'est pour ça que j'essayais de voir jusqu'où peut aller la solitude, jusqu'à quel drame, jusqu'à quelle résignation, jusqu'à quelle catastrophe, jusqu'à quel anéantissement.
Oui, alors la solitude... est ici l'impossibilité de communiquer entre les êtres.
Entre les êtres, oui.
Mais vous savez bien qu'il y a un moyen tout de même de communiquer avec les êtres, puisque vous êtes écrivain. Et vous nous avez dit que quand vous écriviez ces billets dans les nouvelles littéraires, vous receviez des lettres de gens qui ne pouvaient pas s'exprimer.
Exactement.
Et qui étaient avec vous parce que vous les exprimiez.
Mais oui.
Alors.
Mais alors, ces merveilleux inconnus m'ont donné presque toujours les thèmes de mes romans. Ils m'ont obligée à imaginer. Vous savez, on dit que les gens se racontent dans des lettres. Oui, peut-être, n'est-ce pas? Mais pas toujours. Ils ne racontent jamais un essentiel dans une lettre. Ils racontent toujours un détail, n'est-ce pas? Mais ils ne donnent jamais une vérité profonde, ni le véritable drame de leur vie. Je le voyais, je ne dirais pas graphologue, grand Dieu, mais les écritures disent beaucoup pour moi. Et je voyais d'après le papier à lettres, la couleur du papier à lettres, l'écriture même, la forme d'un drame informulé. Et très souvent, en effet, ces gens qui non seulement m'aidaient, parce qu'ils étaient toujours là pour me dire « mais vous n'êtes pas seul, on vous lit ».
Vous, vous les sauviez de leur solitude.
Je les sauvais. Et j'ai reçu une fois une lettre si extraordinaire d'une femme. Ça m'a frappée. Je l'ai retenue au bord du suicide. Elle a lu quelque chose de moi qui lui a donné une sorte d'espérance. Et c'était, je crois, un article à la suite de la mort d'un poète. Mais quand un poète meurt, où va-t-il? Où est-il? Et cette femme qui sombrait a regardé en l'air. Elle m'a dit, à partir du moment où j'ai levé la tête, j'étais sauvée. Je regardais par terre. Alors, vous voyez cet extraordinaire
pouvoir,
n'est-ce pas, de l'écrivain qui n'a jamais vu un être et qui le prend absolument par les cheveux. Elle l'arrache à la mort. Jamais cette femme ne m'a réécrit depuis. Elle m'a dit, c'est ça, c'est arrivé. Eh bien, je veux que vous le sachiez, c'est fait, ça va.
C'est-à-dire que vous, vous les sauviez de leur solitude,
oui,
mais vous n'étiez pas sauvée de la vôtre.
Je n'étais pas sauvée de la mienne, sauf dans la mesure où toutes ces vies qui affluaient vers moi me fournissaient une chaleur, hein, c'était un foyer vivant. Et moi, j'ai été perpétuellement réconfortée par ces flammes qui étaient autour de moi.
Cette présence anonyme,
n'est-ce pas? Ils ont dit, non, attention, nous sommes là. Je ne vois pas d'ailleurs comment, aimant la nature comme je l'aimais, et consciente en même temps de l'état de solitude dans lequel je vivais, bien que j'ai toujours été très entourée, je ne vois pas très bien comment j'aurais pu séparer les deux choses et ne pas m'en servir automatiquement. Entre l'état d'âme et le métier, il y a un monde. L'état d'âme demeure et c'est pour ça que je resterai probablement toujours très jeune, parce que je continue à regarder l'univers avec des yeux jeunes. Mais ce que j'ai tout de même appris, c'est le métier. Mais alors là, je ne l'ai pas complètement appris, je crois bien que je ne l'apprendrai jamais complètement. Dieu merci, parce que le jour où je saurais tout faire très bien, je n'aurai plus qu'à mourir et on m'élèvera un tombeau superbe avec une statue dessus.
Et un laurier.
Oh, toujours vert.
C'était Le métier d'écrivain. Propos de Germaine Beaumont, recueilli par Roger Vrigny. Assistante de réalisation, Michel Thierry.
D'écrivain, Germaine Beaumont. Ces trois premiers entretiens ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 27, 28 et 29 janvier 1964.